Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons devant toi ce matin et nous courbons, Seigneur, nos têtes en ta présence, car tu es le Dieu Saint, le Dieu Créateur, le Dieu Juste, le Dieu Vrai. Et ce matin, Éternel, tu nous invites, en ce premier jour de la semaine, à te rendre un culte. Tu as donné un ordre à toute chose, Éternel, et dès le commencement des temps, tu as mis un jour à part, au cours duquel tu t'es reposé de tes œuvres, et tu invites ton peuple à mettre ce jour à part, pour se réjouir et se reposer en toi. Éternel, tu commandes au peuple d'Israël, dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, d'observer le jour du sabbat en souvenir de la libération de l'Égypte. Et ce matin, Éternel notre Dieu, si nous observons cette journée, c'est en souvenir de notre libération du péché par l'œuvre de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, ce matin nous voulons t'adorer, l'adorer en vertu de l'œuvre qu'il a accompli pour nous à la croix. Nous rappeler, Éternel notre Dieu, que nous étions autrefois esclaves du péché, du diable, et qu'il a payé le prix de notre rachat. Nous voulons nous souvenir ce matin, notre Dieu, que nous aurions dû subir ta colère, être crucifiés à sa place, mais il s'est substitué à nous. Il a subi pour nous la colère que nous méritions. Et c'est ainsi, Éternel, que nous sommes aujourd'hui réconciliés. Autrefois ennemis, aujourd'hui nous sommes tes amis, pour nous qui nous sommes confiés en Jésus-Christ pour notre salut. La colère que nous méritions a été détournée, elle s'est abattue sur lui, et aujourd'hui il t'a rendu propice. Tu nous es favorable, ô notre Dieu, non pas en vertu de mérite quelconque qui nous appartiendrait, mais uniquement en vertu des mérites de ton Fils. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, tu es pour nous un Père, et nous sommes pour toi des enfants. Nous pouvons nous approcher de toi librement, et non seulement librement, mais paisiblement et avec joie, sachant que nous avons au ciel un Père et un avocat auprès de lui, son Fils, Jésus-Christ. Et que si nous avons péché, car nous avons péché, Seigneur, nous t'en demandons pardon au cours de la semaine passée. Nous avons un avocat, Jésus-Christ, qui nous purifie et nous lave de toute iniquité. Ô Éternel, notre Dieu, accorde-nous ce matin de ne pas venir ici par habitude. Seigneur, de ne pas penser à notre salut, Seigneur, avec froideur, tiédeur, mais à nous souvenir, Éternel, du bénéfice qui est le nôtre en Jésus-Christ, du salut merveilleux que tu nous as accordé, de ce que tu nous as arraché des ténèbres et transporté dans le royaume de ton Fils, de ce que, Seigneur, tu es avec nous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde, de ce que nous pouvons vivre d'ores et déjà, Seigneur, cette glorieuse vie d'enfant de Dieu, tout en étant conscient, Seigneur, qu'il y a un combat à mener, combat parfois rude, parfois difficile, contre le monde, contre notre péché, contre le diable, contre ses ruses. Seigneur, bien des souffrances qui nous sont réservées, mais dans lesquelles, Seigneur, tu nous soutiens, tu nous portes, car nous sommes tes enfants et que tu nous aimes. Éternel, notre Dieu, nous pensons ce matin aux frères et aux sœurs de notre Église qui ne sont pas parmi nous pour diverses raisons, et tout particulièrement pour ceux qui sont retenus sur un lit de souffrance. Nous pensons à Madame Fanelbrook, à Fridi, et à d'autres encore, au Jaco, Seigneur, qui n'ont pu se joindre à nous. Nous te demandons la grâce de ta présence auprès d'eux. Nous pensons aussi, Seigneur, à tes serviteurs qui prêchent ce matin ta parole dans les églises qui nous sont proches, comme, Seigneur, dans ton Église de façon générale, car nous sommes en communion avec nos frères et sœurs à la surface du monde. Et nous te demandons, Père, Seigneur, de bénir ton Église, de te faire connaître à elle, de la sanctifier par ta parole. Et nous avons enfin une pensée pour nos autorités, Seigneur, te rendant grâce pour celles-ci. Car quoique imparfaites, Seigneur, elles assument des responsabilités lourdes, importantes, qui demandent de leur part de la sagesse et du discernement. Et nous te demandons, ô notre Dieu, quoique conscient de leurs limites, que tu les soutiennes tout particulièrement, que tu les rendes, Seigneur, capables de prendre les décisions justes qui s'imposent afin que nous puissions vivre une vie paisible ici-bas, que nous puissions, Seigneur, t'honorer, te glorifier comme cela t'est dû et que nous puissions également témoigner de l'Évangile. Nous te demandons, Seigneur, toutes ces choses pour ta seule gloire et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean. Nous allons lire les deux textes qui concernent la prédication de ce matin. Tout d'abord en Jean chapitre 10, et ensuite nous irons en Jean 17. Mais tout d'abord donc Jean 10, les versets 11 à 18. « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Je vous invite ensuite à ce que nous lisions ensemble, au chapitre 17, les versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Voilà donc les deux textes de la prédication de ce matin, qui serviront d'appui à cette prédication. Je vous rappelle, chers frères et sœurs, que nous avons vu lors du premier message de cette série sur les grandes doctrines du salut, qu'il était impossible à l'homme naturel de s'approcher de Dieu par lui-même. En effet, bien qu'il ne soit pas naturellement aussi mauvais qu'il pourrait l'être, néanmoins, l'incroyant est dépravé au point de ne pas pouvoir s'approcher de Dieu par lui-même. Nous avons ensuite vu, la semaine passée, dans le deuxième message, que si certains viennent à Christ malgré leur état de dépravation, encore une fois en étendue plus qu'en intensité, donc même si certains, je le répète, viennent à Christ malgré leur état de dépravation ou de mortalité spirituelle, c'est parce que le Père, Dieu le Père, s'est de toute éternité choisi un peuple afin de le sauver du sein d'une humanité pervertie. Et ce que je vous propose ce matin, dans la suite logique de ces deux premiers messages, eh bien, c'est que nous considérions qui Jésus-Christ est venu sauver par son sacrifice à la croix. Et à ce propos, il faut savoir ceci, c'est que le monde protestant se divise en trois grands groupes. Il y a tout d'abord ceux qui disent que Christ est mort sur la croix pour sauver tous les hommes sans distinction. Ce sont ceux que l'on appelle les universalistes. Il s'agit principalement des théologiens libéraux ou modernistes. C'est ce que prêche, en règle générale, l'Église réformée du canton de Vaud, plutôt les églises officielles. Quoique tous les pasteurs ne prêchent pas ceci. J'en ai rencontré un jeudi qui ne prêche pas cela, mais majoritairement, c'est ce que prêchent ces pasteurs. Il y a ensuite ceux qui affirment que par sa mort, Christ a rendu le salut accessible à tous. Pour eux, le salut serait en quelque sorte un dépôt accessible à chacun, une sorte de main tendue qui doit être saisie. Et on rencontre la plupart du temps cette interprétation dans les milieux évangéliques. Et il y a ensuite ceux qui disent, et enfin, ceux qui disent que lorsque Christ est mort sur la croix, il est mort pour expier les péchés d'un nombre limité, mais défini, de personnes. Et on rencontre cette interprétation dans certains milieux évangéliques, peu nombreux, ainsi que dans les milieux réformés confessants comme le nôtre. Alors ces quelques éléments introductifs étant posés, je vous propose que nous considérions maintenant ce que nous enseigne l'Écriture sur la portée du salut en Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous considérerons principalement quatre vérités théologiques liées justement à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Et nous verrons ensuite quelles conséquences en tirer. Le titre de la prédication de ce matin est celui-ci. Un salut accompli pour un peuple précis. Un salut accompli pour un peuple précis. J'aurai, comme la semaine passée, 6 points. Le premier point, un pacte entre le Père et le Fils pour sauver un peuple. Le deuxième point, une relation spéciale entre Christ et son peuple. Le troisième, l'office de sacrificateur du Fils pour son peuple. Le quatrième, la nature de l'expiation du Fils pour son peuple. Et enfin, les points 5 et 6. Point 5, quelques remarques récurrentes et leurs réponses. Et enfin, les conséquences pratiques de cette doctrine dans notre vie chrétienne, ou les conséquences pratiques dans notre vie chrétienne. Le premier point, un pacte entre le Père et le Fils pour sauver un peuple. La première des choses qu'il est important de rappeler ce matin, je dis bien de rappeler parce que nous l'avons déjà abordé la semaine passée, c'est que lorsque Jésus-Christ vint ici-bas pour l'accomplissement du salut de son peuple, il ne le fit pas de son propre chef. En effet, s'il vint sur cette terre en tant que simple homme, ce fut selon le plan arrêté de toute éternité par le Père. Et ce plan éternel de Dieu, qui détermina donc la venue du Fils, nous est ainsi présenté par l'apôtre Pierre, mais aussi par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Pierre, tout d'abord, écrit ceci. « Ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, prédestiné avant la fondation du monde. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit quant à lui « Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, c'est-à-dire l'alliance éternellement établie entre le Père et le Fils pour le salut d'un peuple, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » Hébreux 13, les versets 20 et 21. Ainsi donc, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons dire, c'est qu'avant que les temps ne soient, c'est-à-dire ceux dans lesquels nous nous trouvons, avant l'existence de ce monde, dans l'éternité passée, si je puis m'exprimer de cette façon-là, le Père assigna à son Fils une mission particulière pour le rétablissement de toutes choses ici-bas. Et il délimita clairement les paramètres de cette mission. C'est ainsi qu'il détermina par avance le lieu de cette mission, sur cette terre, en Israël, et plus particulièrement à Jérusalem pour la crucifixion. C'est ainsi qu'il détermina d'avance pour son fils le moment de cette mission. Paul écrit à ce propos, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. » Il détermina également la nature de la mission du fils, son incarnation, une marche fidèle à la loi de Dieu, et enfin le sacrifice à la croix. Il détermina également le pourquoi de cette mission, le salut d'un peuple élu. Mais on peut dire aussi, et on doit dire, le rétablissement de toutes choses dans l'univers. Et enfin, peut-être certainement que la liste n'est pas exhaustive, il détermina les bénéficiaires humains de cette mission, c'est-à-dire un certain nombre de personnes connues d'avance par le Père, ou élues d'avance. Et à propos de ce dernier point, permettez-moi ce matin de vous montrer une fois encore, au moyen de l'Écriture, tout d'abord que le Père donna effectivement au Fils un peuple précis, afin qu'il le sauve, et ensuite comment le Fils, en vertu de son obéissance parfaite au Père, sauva exclusivement ce peuple de la colère à venir, ce peuple qu'il avait reçu du Père. Et je citerai tout d'abord ce verset de Jean 6, 37-39 que nous avons lu, je crois, la semaine passée, qui dit ceci. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Comme nous le voyons, chers amis, Christ a été envoyé du Père et a sauvé tout ce que le Père lui a donné, ni plus, ni moins. Car il vint ici, ici-bas, pour accomplir la volonté de son Père. Je lirai encore ce passage de Jean 10, donc nous avons lu 11 à 18, tout à l'heure, je lirai maintenant les versets 26 et 29. « Mais vous ne croyez pas, » il parle aux pharisiens, « parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Remarquez cette fois-ci, dans ces versets, que Christ, le bon berger, ne donne pas la vie éternelle à toutes les brebis qui existent dans le monde, mais uniquement à celles que le Père lui a données. Quant aux autres, elles ne croient pas et ne sont donc pas sauvées. Pourquoi ? Parce qu'elles ne lui appartiennent pas, ne lui ayant pas été données par le Père. Alors, chers frères et sœurs, nous pouvons donc affirmer ce matin que, selon ses propos, Jésus-Christ est venu ici-bas pour accomplir le salut d'un groupe précis de personnes élues par le Père. Pour bien comprendre ce que l'on appelle en théologie l'économie du salut, il est important de dire ceci, c'est que le Père planifia le salut de son peuple, que le Fils vint ici-bas pour l'accomplir et que le Saint-Esprit l'applique aux élus. Ou bien, pour dire les choses différemment, le Saint-Esprit amène à la repentance et à la foi les personnes choisies par le Père en vertu de la rançon payée pour elles par le Fils à la croix. Ce qui est également important de préciser, c'est que si Christ, par son œuvre, ne sauva pas la totalité de l'humanité, ce n'est pas parce que son sacrifice aurait été insuffisant, mais tout simplement, je le répète, parce que le Père n'a pas déterminé de sauver tous les hommes. Il n'aurait rien fallu de plus que le sacrifice de Christ pour sauver tous les hommes, car celui-ci était suffisant pour les sauver tous, largement suffisant. Et on peut dire également qu'il n'aurait n'ont plus rien fallu de moins pour ne sauver qu'un homme, parce qu'il fallait le don d'une vie parfaite pour le salut d'une vie pécheresse. Ainsi donc, chers amis, l'œuvre glorieuse du Christ est infinie, aurait été suffisante pour tous, mais elle fut accomplie pour le salut de ceux que Dieu avait donné au Fils. C'est pourquoi ceux-là seuls et sans exception viendront au Fils de Dieu. Je passe au deuxième point, une relation spéciale entre Christ et son peuple. Ce qui est intéressant de noter dans le Nouveau Testament, c'est que lorsque les apôtres font référence aux personnes pour qui Christ est mort sur la croix, ils le font en soulignant le rapport très intime que Dieu a établi avec eux, bien avant qu'ils existent, ou bien avant que ce groupe de personnes, les élus, viennent au monde. Et ce rapport très intime ressort tout particulièrement dans les noms que Dieu donne à ce groupe par l'intermédiaire des écrivains sacrés. Il y a un rapport d'intimité au moyen de ces termes qui nous montre qu'il s'agit d'un peuple restreint. Tout d'abord, et comme nous l'avons vu jusqu'alors, l'apôtre Jean identifie le peuple pour lequel Christ est mort à un troupeau de brebis. Nous venons de le voir dans les textes de l'évangile de Jean que nous avons lus. Un troupeau dont Jésus-Christ est le berger exclusif et auquel il est tout particulièrement attaché. Je relis ces versets de Jean 10 que nous avons lus en introduction à ce message. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Les apôtres parlent ensuite de ceux qui doivent être sauvés en les appelant « amis de Christ ». Et Jean en particulier, encore l'apôtre Jean, utilise cette expression en reprenant ainsi les mots de Jésus-Christ lui-même. En Jean 15, je cite, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Nous découvrons également, et cette fois-ci sous la plume de l'apôtre Paul, que Christ n'est pas mort pour le monde entier, mais pour un peuple bien défini, appelé l'Église. Et voici dans ce sens ce qu'il écrit en Éphésiens 5, verset 25. Il est question du rapport entre le mari, ou l'époux et l'épouse, et du rapport entre Christ et l'Église. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et s'est livré lui-même pour elle. Et nous comprenons ainsi, dans ce verset, que de la même façon qu'un mari aime sa femme et non pas toutes les femmes, bien sûr qu'on doit aimer toutes les femmes, mais pas de la même façon qu'on aime sa propre épouse. Et bien, de la même façon, donc je disais qu'un mari aime sa femme et non toutes les femmes, et se livre pour elle, ou doit être prêt à se sacrifier pour elle, et bien de la même façon, Christ n'a aimé que son Église. Je redirai un mot sur l'amour de Dieu pour les hommes en général, mais n'a aimé que son Église pour laquelle il s'est livré, pour elle seule. Et enfin, Matthieu, l'évangéliste, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ainsi que l'apôtre Paul encore, nous montre que lorsque Jésus est venu ici-bas pour accomplir l'œuvre de rédemption, il possédait d'ores et déjà une relation particulière avec un groupe d'hommes qu'il appelait par avance son peuple. Je cite Matthieu, chapitre 1, versets 20 et 21. « Voici un ange du Seigneur lui apparut et dit en songe, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et il ne s'agit pas, chers frères et sœurs, du peuple d'Israël. Il s'agit de ce peuple que Dieu a élu de toute éternité, d'entre les Juifs et d'entre les païens. En Hébreux 2, 17, nous lisons « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et enfin, troisième texte de l'apôtre Paul, tiré de l'Épître à Tite, chapitre 2, versets 13 et 14, « Notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, les chrétiens, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. » Chers amis, comme nous venons de le voir dans ce deuxième point, nous comprenons tout d'abord par ces expressions si intimes que sont les mots « brebis »,« amis », peuple, un peuple et Église, que Dieu a établi avant que les temps ne soient une relation très particulière avec un certain nombre de personnes. Et nous comprenons ensuite que c'est pour ces personnes exclusivement, c'est-à-dire ses brebis, son peuple, ses amis, qu'il a envoyé son Fils afin qu'elles soient sauvées. Et il serait complètement hors de sens d'affirmer que tous les hommes peuvent être appelés ses brebis, ses amis, son peuple ou l'Église. Permettez-moi de continuer en parlant maintenant, et je passe au troisième point, de l'office de sacrificateur du Fils pour son peuple. Et cela vous permettra de comprendre de façon un peu plus précise cette doctrine importante. Il est important, effectivement, de faire un lien entre l'œuvre de salut de Jésus-Christ à la croix et l'office du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Je m'explique. Comme vous le savez certainement, Dieu donna dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Et ils lui furent donnés non seulement pour le guider et le protéger, ça c'était l'office du roi, pour lui rappeler les commandements du Seigneur, c'était l'office du prophète, et le conduire aussi dans l'adoration. Ça, c'est déjà l'office du sacrificateur. Mais surtout, pour préparer ce peuple d'Israël à la venue du Messie. À la venue du Messie qui serait le roi des rois, qui serait le prophète par excellence, et qui serait surtout, pour le point qui nous intéresse ce matin, le parfait souverain sacrificateur. Ce que l'on peut dire encore à propos des souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'est qu'ils préfiguraient donc le parfait souverain sacrificateur que serait Jésus-Christ pour son peuple. Mais quelle était la tâche du souverain sacrificateur, ou quel était l'office du souverain sacrificateur? Eh bien, le souverain sacrificateur, pour obtenir le pardon du peuple d'Israël, était non seulement appelé à intercéder pour lui, mais surtout appelé à offrir des sacrifices. C'est ce que nous rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, verset 1. Il écrit ceci, « Tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Donc ça, c'était le travail, l'office du souverain sacrificateur. Ce qui est important de rappeler encore, c'est que lorsque le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le Saint des Saints, afin d'accomplir la purification des péchés du peuple, il portait sur sa poitrine ce que l'on appelle l'éphod. Cet éphod représentait tout le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël seul. Permettez-moi de vous lire ce qu'en dit le livre de l'Exode. « Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Tu feras le pectoral du jugement, donc ce qui était sur sa poitrine. Tu y enchâsseras une garniture de pierres. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. » Ainsi, chers amis, nous comprenons ce matin que par ces pierres qu'il portait à la fois sur ses épaules et sur sa poitrine, le souverain sacrificateur représentait devant Dieu, dans le Saint des Saints, non pas tous les hommes qui existaient à cette époque-là sur la terre, mais uniquement le peuple d'Israël. C'est pour celui-ci, et c'est pour celui-ci uniquement, qu'il intercédait et qu'il faisait l'expiation des péchés en versant du sang sur le propitiatoire. Et comme je vous le disais précédemment, cet office sacerdotal préfigurait l'office du parfait souverain sacrificateur qui allait venir, Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, lorsque Jésus-Christ se sacrifia à la croix, donnant sa vie et versant son sang, il le fit lui aussi pour un peuple précis qu'il représentait à ce moment-là, devant le Père. Son Église, ses amis, son peuple, ses brebis. Je vous rappelle ce qu'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux à propos de cet office sacerdotal de Christ. En chapitre 9, versets 10 à 12, il est écrit « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Pour qui ? Toujours l'auteur de l'Épître aux Hébreux, écrit au chapitre 2. « Il fut un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Ce n'est pas, encore une fois, le peuple d'Israël, c'est du peuple que Dieu s'est élu de toute éternité. Et nous lisons encore au chapitre 7, verset 25, à propos de l'intercession de Christ pour son peuple, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Ainsi, chers amis, on peut affirmer encore ce matin que Christ, en tant que souverain sacrificateur, est entré dans le temple de Dieu, ayant accompli par son sang le salut de son peuple. Il le représentait, et pourrait-on dire, il le portait, ou il nous portait, ou il vous portait, et vous porte encore aujourd'hui, de la même façon que le souverain sacrificateur portait ou représentait par les fautes sur ses épaules et sur sa poitrine le peuple d'Israël, et uniquement le peuple d'Israël. Et ce qui est magnifique, j'y ai pensé hier en fin de journée, c'est d'imaginer que le sacrificateur portait les noms des Israélites sur ses épaules, mais sur sa poitrine, comme s'il soutenait ce peuple, et comme si ce peuple était près de son cœur. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui pour Christ, à l'égard des siens. C'est lui qui nous porte, et nous sommes près de son peuple. Et fait extraordinaire, comme nous l'apprenons au chapitre 7, verset 25, il intercède pour ses enfants, pour ce peuple précis qu'il a sauvé, étant assis à la droite du Père, auprès duquel il nous représente, ou il représente l'Église. Je passe maintenant au quatrième point, la nature de l'expiation du Fils pour son peuple. Et dans ce point, j'aimerais maintenant examiner avec vous quatre termes bibliques importants qui nous montrent que Christ a effectivement accompli son œuvre pour un peuple défini. Ces quatre termes sont les suivants. Il s'agit de la rédemption, de la réconciliation, de la substitution et de la propitiation. Je vais vous expliquer ces termes qui peut-être pour certains vous sont connus et d'autres vous paraissent un peu barbares ou difficiles à saisir dans l'immédiat. Et je vous le rappelle, ces termes nous parlent tous de l'œuvre de salut de Jésus-Christ pour son peuple. La rédemption tout d'abord. Lorsqu'il est question de rédemption dans la Bible, il est fait référence au versement d'une rançon pour le rachat de quelqu'un. Et la Bible emploie généralement ou également cette terminologie à propos de l'œuvre de Christ. Et elle nous montre ainsi que notre Sauveur n'a pas simplement rendu un salut possible pour tout le monde, mais qu'il a bel et bien racheté personnellement chaque membre du peuple que le Père lui a donné, en s'offrant personnellement en rançon pour lui, pour chaque membre. Paul écrit à titre ceci, « Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Chers frères et sœurs, l'Écriture est donc claire. Jésus-Christ a racheté un peuple précis, en s'offrant comme rançon à la place de chacun de ses membres. La réconciliation, ensuite. Ce sont des termes, bien entendu, sur lesquels nous pourrions dire beaucoup de choses. Un message serait même court pour chacun de ces termes, et cela vous donne une idée générale. La réconciliation, ce terme parle de la fin d'un conflit. Et vous savez, vous avez certainement entendu parler, pour illustration, de la réconciliation franco-allemande. Après s'être tapé dessus pendant quasiment un siècle, maintenant nous vivons cette réconciliation. Alors qu'en est-il d'un point de vue biblique? Eh bien, nous apprenons dans les Écritures que l'état du pécheur sans Dieu est un état d'irréconciliation avec lui. Car il demeure sous le jugement de Dieu à cause de sa continuelle désobéissance à la loi. Mais la parole nous montre aussi que l'œuvre de Christ à la croix ne fut pas de rendre la réconciliation possible pour tous, mais surtout, cette œuvre de Christ à la croix permit d'opérer effectivement cette réconciliation pour certains. Paul écrit aux Colossiens, « Et vous, chrétiens, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. » Réconciliation pour un peuple précis. La substitution. La substitution, quand on y réfléchit, c'est quelque chose d'assez simple. Il s'agit de quelqu'un qui prend la place d'un autre et qui agit ou décide à la place de cette autre personne. Et c'est exactement ce que fit Jésus-Christ pour nous sauver en tant que ses enfants de la colère à venir. À la croix, Jésus-Christ n'est pas mort pour lui. Mais il a pris la place de chacun de ses enfants, subissant pour lui le châtiment qu'il méritait. Et je lis, je reprends ce texte d'Ésaïe 53 que nous avons lu tout à l'heure et qui nous montre cette parfaite substitution de Christ pour ses enfants. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Permettez-moi de passer maintenant à la propitiation, terme peut-être le plus difficile à comprendre d'emblée. Il s'agit de l'idée selon laquelle Christ, par son sacrifice, a détourné la colère de Dieu en la subissant à notre place, et il nous a ainsi rendu Dieu propice, ou rendu Dieu favorable. Et l'apôtre Jean écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 10, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, nous ses enfants, et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. » Christ a subi à la place de chacun de ses enfants la colère qu'il méritait, et a détourné ainsi cette colère de Dieu. Ainsi, chers amis, nous constatons ce matin, au moyen de ces quatre expressions, terme théologique important, que le rôle de Christ à la croix fut un rôle actif. C'est une œuvre effective qu'il accomplit pour tous ceux pour lesquels il mourut. Il racheta, il réconcilia, il se substitua personnellement pour chacune de ses brebis. Il rendit Dieu propice pour chacune de ses brebis, et non pas pour un peuple vaporeux d'inconnus. Et comme nous le constatons, à aucun moment la Bible ne dit, comme le prônent certains, que Christ est mort pour rendre le salut possible. Mais elle insiste, par contre, pour montrer l'efficacité de sa mort pour ses amis, pour son peuple, pour ses brebis. Et c'est ainsi donc qu'il les a personnellement rachetés, je le répète, réconciliés, qu'il s'est substitué à elles et qu'il a ainsi détourné la colère qui devait les frapper. Le gros problème aujourd'hui, enfin aujourd'hui comme hier et comme demain, de ceux qui disent que le salut a été rendu possible à l'œuvre de la croix et que finalement c'est à l'homme de s'en saisir s'il le veut bien, un matin en se réveillant de bonne humeur. Le gros problème est le suivant. Si Christ, par sa mort, a effectivement racheté tous les hommes, s'est effectivement substitué à eux à la croix, les a ainsi réconciliés, a détourné la colère divine qui devait la frapper, alors cela signifie que si un homme refuse ce salut qui lui est ainsi offert, il n'y a aucune raison pour qu'il souffre les peines de l'enfer. Aucune. Sinon, on serait placé devant un cas flagrant de double peine, puisque Christ a déjà tout payé. Et pourtant, c'est exactement ce qu'affirment, sans s'en rendre compte, les tenants d'une telle théorie. Christ a payé, pour tous, laisse tout le monde libre de venir, mais s'ils refusent, alors eux, ils paieront à nouveau le prix de leur culpabilité. Cette interprétation est aberrante et rend Dieu injuste, car cela signifie que Christ aurait payé et que eux devraient encore payer. La vérité, c'est que selon l'Écriture, tous ceux pour qui Christ a payé sont effectivement rachetés. Tous ceux pour lesquels il a porté la condamnation sont effectivement réconciliés. Tous ceux pour lesquels il s'est substitué sont effectivement libérés et sauvés. Chers amis, nous venons de voir dans ces quatre points qu'en vertu tout d'abord de cette alliance éternelle passée entre le Père et le Fils, en vertu ensuite des liens étroits dont la Bible fait état entre le peuple de Dieu et son Sauveur, ses brebis, ses amis, son peuple, son Église pour laquelle il est mort, en vertu également de l'œuvre sacerdotale de Christ, et enfin en vertu de son œuvre à la croix, nous venons de voir que Christ est mort pour un peuple défini. Cela signifie-t-il que Dieu n'aime pas tous les hommes ? Nullement, mais nous devons toutefois faire un distinguo, comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois ici et lors du message que je vous ai donné sur Éphésiens 3. Nous devons faire un clair distinguo entre l'amour général de Dieu à l'égard de toutes ses créatures. Il donne à toutes ses créatures la vie, le mouvement, l'être. Il fait briller sur toutes ses créatures le soleil, il leur donne à toutes la nourriture, la joie dans le cœur, etc. Ce que nous disent les apôtres. Il se révèle à chacune de ses créatures et les appelle à la repentance. Mais celles-ci demeurent rebelles et ne veulent pas de lui. Nous devons donc faire un clair distinguo entre cet amour général et son amour particulier à l'égard de ses brebis, de son Église, de ses amis, qu'il s'est choisi souverainement. Pourquoi ? C'est un mystère. Et comme je vous l'ai dit la semaine passée, je ne peux dévoiler ce mystère ou les voiles qui subsistent sur ce mystère, pour nous insondable, mais pourtant bien réel, et qui n'est pas le fait de notre sagesse ou d'un quelconque mérite qui reposerait sur nos épaules en tant que chrétiens. Quelques remarques récurrentes et leurs réponses. La principale opposition à la doctrine de l'expiation définie, puisque c'est le nom qu'on lui donne, que nous venons de considérer, c'est qu'il y a des textes bibliques qui semblent affirmer le contraire de ce que je viens de dire, ou de ce que l'Écriture nous montre. Versets qui nous déclarent que Christ est mort pour tous les hommes, ou que Christ est mort pour le monde entier. Alors ces versets existent effectivement, et on ne peut pas passer sur ces versets comme chat sur braise. Voici quelques-uns de ceux qui parlent de l'œuvre de Christ pour tous, ou pour le monde, pardon. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. Nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde, Jean 4, 42. Il est lui-même victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, 1 Jean 2, verset 2. Et voici maintenant quelques-uns des versets qui nous parlent du salut ou de l'intention de salut de la part de Dieu pour tous. 1 Timothée 2,6, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Romains 5,18, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors ceux qui s'appuient sur ces versets, selon lesquels Dieu veut sauver ou sauve chaque être humain, sont rapidement confrontés à d'autres versets, comme celui de Jean 8,24, dans lequel Jésus dit aux pharisiens, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, et ils ne croyaient pas, vous mourrez dans vos péchés. Alors pour bien comprendre le sens de ces versets, il est important de savoir que les mots « monde » et « tous » ne peuvent pas être considérés à chaque fois dans le sens extensif de « tous les hommes sans exception ». Parfois c'est vrai dans certains textes du Nouveau Testament. Et parfois, ça ne l'est pas. Alors il est bien entendu que je ne peux malheureusement pas faire une étude exhaustive de tous ces versets ce matin, vous le comprenez bien, sinon on devrait y passer des heures. Néanmoins, ce que l'on peut dire à propos des versets contenant le mot « tous », c'est qu'ils doivent être compris dans les cas que je vous ai cités précédemment, dans le sens de « tous sans distinction », c'est-à-dire des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, des rois et des mendiants. Et d'ailleurs, le verset d'Apocalypse 5:9 rend très bien cette idée lorsqu'il est écrit « Ils chantaient en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il n'est pas en train de dire qu'il a sauvé tous les peuples et toutes les nations, tous les hommes qui vivaient dans ces peuples et dans ces nations. Et ces précisions étant données, chers amis, nous pouvons ainsi mieux comprendre ces versets. Et c'est ainsi que nous comprenons qu'en 1 Timothée 2:4, Paul dit que Dieu veut que les hommes, ou des hommes de toutes conditions, rois, mendiants, hommes, femmes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il est important d'ailleurs de considérer ces versets dans leur contexte, avant de leur faire dire n'importe quoi. Quant au mot « monde », il ne veut pas toujours dire chaque individu de la planète. Permettez-moi de vous donner un exemple qui nous permet de le constater. En Jean 12:19, les pharisiens dirent ceci. « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé auprès de lui. » Est-ce que ça signifie que tous les habitants de la planète ce jour-là sont venus auprès de Jésus-Christ? Non. Mais il s'agissait de personnes qui venaient de tous les coins de la région en question, et non pas de chacune des personnes qui existaient à ce moment-là. Et ce que l'on peut dire de ce mot « monde », c'est qu'il est souvent employé dans les versets que je vous ai cités tout à l'heure pour parler des juifs et des non-juifs ensemble. Pourquoi? Parce que les juifs ne pouvaient pas supporter que le salut ne leur soit pas exclusivement réservé. Et c'est la raison pour laquelle les apôtres présentent donc que le salut est pour un peuple d'entre toutes les nations, et non pas exclusivement réservé au peuple juif. Mais, permettez-moi de le répéter encore une fois, le mot « monde » a tellement de sens différents dans l'Écriture qu'il est important d'examiner attentivement chaque verset dans son contexte et de ne pas en tirer immédiatement une conclusion universaliste selon laquelle Dieu veut sauver tous les hommes. Si vous avez le désir de connaître l'explication de certains de ces versets, venez me voir, et il y a dans un ouvrage d'Henri Blocher, « Péché et rédemption », quelques pages dont je pourrais faire des photocopies qui nous permettent courtement de comprendre dans leur contexte ce que signifient ces versets. Alors j'en viens au dernier point et qui sera ma conclusion, quelques conséquences pratiques dans notre vie chrétienne. Cette doctrine pourtant si décriée de l'expiation définie, car elle fait hériter les poils de beaucoup, loin de nous effrayer, devrait au contraire nous réconforter en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle nous démontre que c'est à cause d'un amour personnel pour nous, pour chacun de nous, pour vous, et non du fait d'un amour vague et anonyme, que Christ est venu mourir ici-bas parmi les hommes. Et c'est ainsi que si ce matin vous êtes enfant de Dieu, et vous pouvez vous écrier sans aucun problème, « Christ m'a racheté en prenant ma place. Il a ainsi détourné la colère du Père contre moi et m'a personnellement réconcilié avec lui. » Cette doctrine devrait également vous ou nous encourager ce matin à évangéliser, parce que sachant que Christ a aimé des personnes précises pour lesquelles il est mort personnellement, eh bien nous pouvons croire que dans sa providence, il va nous conduire vers ses brebis qu'il aime et qui doivent encore entendre le message de l'Évangile pour être sauvés. Ça ne veut pas dire que nous serons conduits que vers ces brebis-là, mais il saura aussi dans sa providence et dans sa bienveillance nous conduire auprès d'elles. Car comme nous l'avons vu la semaine passée, il veut les amener au salut par l'annonce de l'Évangile au moyen de ses enfants. Et enfin, s'il y en a parmi nous ce matin qui sont incroyants, je ne peux pas vous affirmer que Jésus est mort pour vous. Pourquoi? Parce que je ne le sais pas, je ne suis pas dans les décrets cachés, secrets de Dieu. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est mort pour des pécheurs comme vous. Qu'il est le sauveur parfait de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Qu'il décharge du fardeau de leurs péchés tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et dans la foi. Donc je ne peux pas vous dire qu'il va vous sauver, mais je peux vous dire que ce salut est possible. Et c'est à ce salut que je vous invite ce matin, tout simplement en venant à lui, en vous repentant de votre péché et en mettant votre confiance en Christ et en Christ seul, qui peut vous racheter, vous réconcilier, détourner la colère de Dieu, le rendre propice. Alors, chers amis, que le Seigneur de gloire, loin de nous décourager par une doctrine qui reste, comme celle de l'élection, je l'ai dit la fois passée, à bien des égards mystérieuse, mais néanmoins merveilleuse comme nous venons de le voir, car elle révèle un Dieu de grâce qui sauve un peuple du milieu d'hommes et de femmes qui étaient perdus, eh bien, que cette doctrine nous encourage à nous réjouir en notre Sauveur qui a œuvré personnellement pour chacun de nous, et à être trouvé fidèle dans notre témoignage, car nous sommes appelés à annoncer l'Évangile à toute créature, et ensuite à prier pour cela, et à laisser Dieu agir selon sa volonté. Amen. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce d'avoir pu considérer à nouveau ce matin ton œuvre de salut pour chacun de tes enfants. D'avoir pu considérer, Éternel, qu'alors que nous étions, j'étais prisonnier, esclave du péché, enfant de colère, Seigneur, tu m'as racheté, tu m'as arraché des griffes de l'ennemi, tu as payé le prix de ma rançon, tu m'as libéré en Jésus-Christ. Alors que j'étais ennemi, ton ennemi, Éternel, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tu m'as réconcilié avec toi. Alors que la colère devait me frapper, Éternel, que la mort était notre lot, mon lot, tu t'es substitué à nous, tes enfants, à moi. La mort t'a frappé. Et la colère de Dieu a ainsi été détournée de nous, tes enfants et de moi. Elle a frappé ton Fils, et tu nous es, tu m'es aujourd'hui propice, face à un si grand salut, effectivement parfaitement accompli. Nous ne pouvons ce matin que te rendre grâce. Éternel, pour le reste, nous ne comprenons, Seigneur, ces mystères, et nous ne pouvons savoir aujourd'hui qui t'appartient ou qui ne t'appartient pas. Cela ne nous regarde pas, et nous ne voulons pas perdre du temps, Éternel, dans des recherches vaines. Par contre, nous te supplions et t'implorons afin que, Seigneur, nous accomplissions la mission d'évangélisation qui est la nôtre, d'annoncer l'Évangile à toute créature ici-bas, sachant, Éternel, que tu sauras attirer à toi ceux que tu veux sauver, et que ceux-ci seront réellement, parfaitement sauvés, dans la main du Père, de laquelle personne ne pourra les arracher. Accorde-nous donc, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, cette semaine qui commence, d'être rassurés quant à notre salut, et d'être trouvés fidèles dans notre mission d'annonce de l'Évangile, mais aussi d'être trouvés fidèles, Éternel, dans notre obéissance à ta volonté, de marcher avec toi, de marcher en nouveauté de vie et de marcher avec joie face à un tel Sauveur qui est venu pour chacun de ses enfants personnellement. Nous te disons et te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.